Encore une fois, la bienvenue à l'église Nouvelle Vie Châteauguay. Puis pour commencer mon message, on va commencer fort. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la nomophobie? La nomophobie. C'est une intro extraordinaire parce que je savais que j'allais perdre tout le monde dès le départ. C'est merveilleux. Restez avec moi. La nomophobie. Cherchez pas non plus dans les livres des prophètes ou dans l'Apocalypse, ce mot ne s'y trouve pas. La nomophobie, qu'est-ce que ça? La nomophobie, ça vient du terme no mobile phone phobia. Et en fait, c'est la peur que certaines personnes ont lorsque leur téléphone est éteint, lorsque leur téléphone est loin d'eux, ou alors encore pire, lorsque leur téléphone affiche batterie faible. Qui aime bien avoir les batteries faibles? Personne n'en est d'accord. Je sais pas pour vous, mais moi, je recharge mon cellulaire tous les jours. Même quand je suis à 70%, je le recharge quand même parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. J'ai pas envie de tomber en panne. J'ai pas envie de perdre ma batterie. Personne n'aime manquer de batterie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on recharge nos cellulaires, on recharge nos tablettes, on recharge nos ordinateurs tout le temps. Il faut que ce soit tout le temps chargé à bloc. Mais ce qui est étonnant de ça, c'est qu'on est à la fois extrêmement soucieux pour nos appareils électroniques, mais quand il s'agit de notre corps, de notre âme, là par contre c'est moins grave. On ne veut pas se mettre en charge. Je sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « je me reposerai quand je serai mort ». Vous l'avez déjà dit, peut-être. Ce matin, le titre de mon message, « Recharge tes batteries ». On vit dans une société qui est totalement épuisée. Il y a une étude qui est sortie en 2021. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Puis je suis sûr qu'on peut avoir les mêmes résultats au Canada. Et cette étude qui a été faite en 2021 aux États-Unis montrait que la moitié des travailleurs américains se sentaient épuisés, surchargés par les exigences de leur travail. Mais ça ne se limite pas juste à la sphère professionnelle. Il y a dans notre société un climat d'épuisement. On est épuisé parce qu'on cherche à plaire à tout le monde. On est épuisé parce qu'on ne veut offenser personne, ce qui est mission impossible aujourd'hui parce qu'on s'offense pour rien. On est épuisé parce qu'on cherche à être la mère parfaite sur les réseaux sociaux, à publier la photo parfaite avec nos enfants, sauf qu'avant la photo et après la photo, c'est un carnage. On est épuisé parce qu'on veut être le père parfait qui conduit ses enfants au gym, à la sport, au hockey, au volley, au football. En même temps, on gère les impôts, en même temps, on doit gérer les travaux à la maison. On est épuisé parce qu'on cherche à être influent sur TikTok. On est épuisé parce qu'on cherche à être la meilleure élève, le meilleur élève, la meilleure employée, le meilleur employé. On est épuisé parce qu'on cherche à avoir un impact dans le monde. Et il y en a plusieurs ce matin qui sont épuisés par mon introduction déjà ce matin. On est dans une course sans fin qui nous épuise. On n'a même plus le temps de se reposer. J'ai pas le temps de me reposer. Et le risque de tout ça, c'est qu'on voit une augmentation de burn-out, d'épuisement professionnel, de dépression, d'anxiété, de mort physique et émotionnelle. Je sais pas dans quel état t'es venu ce matin. Peut-être que c'est toi qui es fatigué aujourd'hui. Peut-être que c'est toi qui es épuisé. Peut-être que ce que je viens de dire, mon introduction, ça te concerne toi personnellement. T'es fatigué aujourd'hui. Et si c'est ton cas, Jésus a une déclaration forte pour toi ce matin. Jésus a une déclaration qui est forte pour toi aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Et il dit en Matthieu 11, verset 28, Jésus parle et dit « Venez à moi ». Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai de l'ouvrage supplémentaire. Un poids supplémentaire sur tes épaules. La pression de devoir faire plus, 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 plus. Non, viens à moi et je te donnerai du repos. Jésus t'invite, toi qui es épuisé aujourd'hui. Toi qui es anxieux ou anxieuse, Toi qui es écrasé toujours par la pression de bien faire, de plaire. Toi-même peut-être qui perds ton sommeil en ce moment parce que t'as tellement de questions, t'as tellement de choses, t'as tellement de problèmes dans ta tête, dans ton entreprise que ça te stresse, ça t'empêche de dormir. Jésus t'invite, toi qui es fatigué aujourd'hui, à goûter à son repos parfait. Et voici comment, tout de suite après avoir fait cette déclaration choc, si t'es fatigué, viens à moi, je te donnerai du repos. Tout de suite après, Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà comment obtenir le repos selon Jésus. Puis à l'époque, ils ont parfaitement compris cette idée de joug, etc. Ils l'ont parfaitement compris. Nous, on doit faire un effort supplémentaire pour essayer de comprendre ce que Jésus a voulu dire. Et je vous ai trouvé une image de ce que c'est un joug. Et un joug, c'est une sorte de morceau de bois qui reliait deux animaux ensemble pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils accomplissent une tâche plus importante ensemble. Et en fait, ce que Jésus est en train de dire, je vais vous le traduire, si t'es fatigué, si le poids que tu portes est trop lourd, viens à moi et je vais te donner mon joug. Je vais te donner un outil de travail sur tes épaules. Je vais te donner un nouveau poids sur tes épaules. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait pas de sens. Parce que quand je suis fatigué, moi, je veux un spa. Moi, je veux des congés. Je veux des vacances. Je veux la plage, je veux la mer, je veux le silence, je veux le calme, je veux juste les mouettes, je veux juste le fond des vagues, je veux que Julie me masse les pieds quand je suis fatigué. Je veux certainement pas un nouvel outil de travail sur mes épaules, un nouveau poids sur mes épaules. Et il faut comprendre que le joug ne peut pas être fait que pour un animal, c'est toujours fait pour deux animaux. Et ce que Jésus est en train de dire, il est en train de nous dire que si t'es brûlé en ce moment, si t'es épuisé, si t'es fatigué, si t'es à bout de souffle, lâche le poids que tu portes et viens à mes côtés. On va porter un autre poids ensemble. On va porter un autre joug ensemble. Lâche tout ça. Sois plus lié par tes obligations, mais sois lié à moi. Cherche pas à t'épuiser, à faire comme tout le monde, à plaire à tout le monde. Cherche à me ressembler. Cherche à aller au même rythme auquel je vais. Te laisse plus écraser par le poids de la culpabilité, par le poids de pas être à la hauteur, par le poids de toujours vouloir faire plus, mais porte le poids, mon joug, qui est doux, qui est léger, et tu vas découvrir la grâce, mon amour et mon repos pour toi. Pour goûter le repos parfait que Jésus nous parle ce matin, il faut que tu te lies à Jésus. Il faut que tu suives Jésus. Et on a eu deux messages pendant le mois de mai avec deux prédicateurs différents sur suivre, un appel à suivre Jésus. Je pense qu'on doit appliquer ces messages-là. Mais surtout, il faut qu'on apprenne à vivre comme Jésus. Il faut qu'on apprenne à aller au même rythme que Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous retracent l'histoire de Jésus, Jésus, on le voit jamais pressé. Jésus n'avait que 3 ans. Son ministère n'a duré que 3 ans. Il avait 3 ans pour guérir des malades, pour délivrer des gens qui étaient possédés, pour annoncer le royaume de Dieu, pour annoncer un évangile de grâce, pour former en plus 12 bras cassés, parce que les disciples n'étaient pas très fins à l'époque. Hein. Puis en plus de tout ça, il devait aller de ville en ville, de village en village, il faisait tout ça à pied, il n'avait pas de jet privé, les écolos ils sont comme « Ouh, pas de jet privé !» Mais lui, il avait besoin d'un jet privé parce qu'il avait tellement de choses à faire, il avait un poids énorme, un agenda à respecter pour pourtant, Jésus marchait tout le temps. Prenez son temps. Il était calme. Il ne se laissait pas dépasser. Il était confiant. Et quand il était fatigué, il ne disait pas, c'est pas grave, je me reposerai quand je serai mort, ça arrive bientôt en plus. Quand il était fatigué, il se reposait. Même quand une tempête faisait rage autour de lui, même quand les problèmes continuaient autour de lui, même quand il y avait encore d'autres choses à faire, j'ai besoin de me reposer. Alors je me repose. En suivant l'exemple de Jésus, tu vas porter son joug, mais tu vas aussi te mettre à son rythme. Et tu vas goûter le repos parfait pour ton âme. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il va nous donner un exemple. Il va nous donner un exemple à suivre pour vraiment goûter à son repos, savoir comment le pratiquer son repos. Il va nous donner la meilleure voie tout de suite après ces versets-là. Il y a comme un enchaînement. Il nous parle de ça. Viens à moi si t'es fatigué. Porte mon joug. Et tout de suite après, Jésus nous parle du sabbat. Jésus donne un enseignement sur le sabbat. Comme pour donner un exemple. Que si tu veux trouver le repos en Jésus, la pratique du sabbat, c'est un conseil qui va te conduire vers le repos en Jésus. Parlons un peu du sabbat. Le sabbat, c'est la seule discipline spirituelle qui se trouve dans les 10 commandements. Dieu a donné 10 commandements à Moïse dans l'Ancien Testament pour que Moïse vienne les communiquer au peuple d'Israël. Il a donné 10 commandements, mais c'est la seule discipline spirituelle, c'est le sabbat. Il n'y a même pas la prière. Il n'y a même pas aimer son pasteur dans les 10 commandements. Et 30% des mots des 10 commandements concernent le sabbat. Et aucun des 10 commandements n'a suscité plus de débats, de divisions que le sabbat. Tu ne voleras point, on arrive à s'entendre. Commets pas d'adultère, il y en a qui sont déçus, mais on comprend l'idée. Par contre, sur le sabbat, on se divise dessus. Parce qu'il y a deux extrêmes. Il y a un premier extrême, il y a des mouvements chrétiens qui disent aujourd'hui, il faut qu'on retourne à ce qui se pratiquait dans l'Ancien Testament en matière de sabbat. C'est-à-dire, on ne travaille plus le samedi, on ne fait plus rien le samedi. Interdiction de toucher au bouton dans l'ascenseur. On respecte le sabbat à 100% et ils viennent même à dire malheur à ceux qui ne respectent pas le sabbat du samedi. Il y a des mouvements comme ça qui existent dans le monde, des mouvements chrétiens qui existent, qui mettent en face, qui veulent appliquer beaucoup trop, avec trop de rigidité, le sabbat et le repos. Mais ce qui est intéressant de voir avec ces mouvements-là, qui veulent respecter absolument le samedi, comme dans l'Ancien Testament, c'est qu'en fait, ils respectent à moitié le sabbat. Parce que Dieu n'a pas juste enseigné « repose-toi un jour », il a dit aussi « pendant une année, tous les 7 ans, je veux que tu arrêtes de travailler ». Mais là, se dire pendant un an, ne plus travailler, ne plus avoir de revenus, là par contre, on prend un peu de recul là. Hein. Puis ces mouvements-là ont tendance aussi à oublier que dans le Nouveau Testament, l'Église primitive, les premiers chrétiens, eux ne faisaient pas le sabbat le samedi, mais le faisaient le dimanche. Comme un symbole que c'est le premier jour de la semaine, parce que c'est ce jour-là où Jésus est ressuscité, c'est ce jour-là où nous sommes ressuscités en lui. Ça, c'est un extrême. Mais on a l'autre extrême qui nous dit « plus besoin de sabbat, plus besoin de repos, nous sommes sous la grâce maintenant. » Je parlais avec un pasteur dernièrement, puis on arrivait à la conclusion, à la même conclusion, qu'à l'église, on était fiers souvent de ne pas respecter un commandement, et c'était le sabbat. On est fiers de ne pas respecter ce commandement parfois. Jamais tu verras un chrétien arriver un dimanche matin à l'église « oh !» Hey, j'ai volé toutes les affaires de mon voisin dans sa cour, c'était génial. Jamais t'entendras ça. Par contre, dire, hey, cette semaine, ça a été intense, j'ai pas eu une seconde à moi, ça, on l'entend. Puis en plus, on l'applaudit. Bravo. Puis en plus de ça, même la société encourage ce genre de comportement. T'as travaillé fort, tiens, une augmentation de salaire. Et on a deux extrêmes ici. Mais les deux extrêmes disparaissent devant le merveilleux verset que Jésus a prononcé en Marc 2, verset 27, où est-ce qu'il a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme, de sorte que Jésus est maître même du sabbat. » Ce verset nous dit, pour ceux qui respectent trop le sabbat, arrête de te mettre un poids sur tes épaules. Le sabbat ne doit pas t'épuiser encore plus par toutes les règles, les obligations à faire et ne pas faire. Le sabbat ne doit pas t'écraser, mais te servir. Peu importe le jour, peu importe la manière dont tu fais le sabbat, c'est pas ça qui compte. Le sabbat, c'est pas se tourner vers un jour, c'est pas se tourner vers une façon de faire. Le sabbat, c'est se tourner vers Jésus. Et à tous ceux qui pensent que le sabbat, c'est un vieux commandement à jeter dans vos toilettes, le sabbat doit pas être oublié. Car il a été fait pour toi. Le sabbat a été fait pour toi. Oui, notre repos parfait se trouve en Jésus. Mais il n'y a rien de plus pratique que de se reposer en Jésus en respectant le sabbat. Le sabbat, c'est un cadeau. Un cadeau qui a été fait pour toi. C'est pas un poids, c'est pas quelque chose à oublier, c'est un cadeau qui a été fait pour toi que tu dois ouvrir à chaque semaine. Et il n'y a rien de plus plate qu'un cadeau qui n'a jamais été ouvert. Il n'y a rien de plus triste que de voir un cadeau qui reste emballé sous le sapin de Noël et que personne n'ouvre. Ça ne sert à rien. Jésus a respecté le sabbat. Et il te dit, si tu me suis et que tu veux trouver le repos en moi, fais comme moi. Fais comme moi. Repose-toi. Et on va chercher à comprendre ensemble là, qu'est-ce que ça veut dire le sabbat. Ça, c'est mon introduction, il reste encore à peu près 2 heures. Ça vous va? Je vois des gens qui sont comme, oh yes, come on. Le sabbat. Le sabbat, ça vient du mot hébreu shabbat. Et il y a plusieurs significations dans l'Ancien Testament, mais le sabbat, ça signifie premièrement s'arrêter. On s'arrête. On s'arrête de travailler. On s'arrête de s'inquiéter, on arrête de penser, on arrête de s'occuper. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est difficile de s'arrêter. C'est un défi de s'arrêter. Le monde va tellement vite, tout tourne trop vite. Il y a toujours des choses à lire, à écrire, à poster, à tweeter, à instagrammer, à reposter, à taguer. Il y a toujours des choses à commenter, il y a toujours des choses à liker, il y a toujours des choses à faire. Ça va tellement vite. Puis si on s'arrête un instant, on perd le fil. Mais en Hébreux 4, verset 11, on nous dit « Efforçons-nous. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. » Il faut s'efforcer de le faire. Si tu veux goûter au repos, laisse-moi te dire, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que je l'ai dit aujourd'hui, c'est presque impossible à tout mettre sur pause, à mettre notre pensée sur pause, à mettre nos réseaux sociaux sur pause, à mettre notre pensée sur pause, notre travail sur pause. Mais en plus de ça, je crois fortement que notre ennemi spirituel ne veut pas que nous nous reposions en Jésus. Corrie ten Boom, une écrivaine chrétienne néerlandaise qui a aidé, qui a sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, a dit un jour que si le diable ne peut pas nous rendre mauvais, il nous rendra simplement occupés. Tu veux te reposer? Tiens, voilà de nouvelles responsabilités au travail. Tu veux te reposer? Tiens, voilà de nouveaux problèmes financiers. Voilà de nouvelles inquiétudes. Voilà les pleurs de tes enfants qui t'empêchent de te reposer. Puis même, attends, j'ai dans ma poche plein de bonnes excuses que tu peux dire à ton pasteur. Qui dit te reposer. Je peux pas, pasteur, me reposer. J'ai un nouveau job. Je peux pas me reposer, pasteur. Moi, c'est l'adrénaline, c'est le travail qui me drive. Moi, j'ai besoin de ça. Je peux pas me reposer. Moi, je lance mon entreprise. C'est pas le moment pour moi de me reposer. Je peux pas me reposer parce que moi, mon entreprise, elle est en train de couler, donc je peux pas me reposer. Je peux pas me reposer parce que je suis un parent, je suis une mère, un père célibataire. Je peux pas me reposer. J'ai pas le temps de me reposer. Toutes ces excuses sont valables. Le problème, c'est qu'aucune excuse ne peut tenir face au rythme créationnel. Et ce que j'appelle rythme créationnel, on va le voir ensemble. En fait, le rythme créationnel, dans la Genèse, dans le premier livre de la Bible, les premiers chapitres de la Bible, les premiers versets de la Bible, ce qu'on voit, c'est le Dieu créateur. Dieu a créé l'univers. Dieu a créé le monde. Dieu a tout créé en l'espace de 6 jours. Même le 6e jour, il a créé l'homme. Et il lui donne déjà des tâches à faire. Il lui donne déjà du travail. Comme quoi le travail, c'est bon. C'est bon de travailler. Dieu dit à l'homme, va falloir que tu t'occupes de la terre. Va falloir même que tu nommes tous les animaux que j'ai créés. Et alors que l'homme se réveille le septième jour prêt à commencer son travail, Dieu lui dit, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est repos. Genèse 2, verset 2, il nous dit, Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Le septième jour de la création, Dieu se reposa. Puis il faut comprendre que Dieu n'avait pas besoin d'une sieste ici. Hein. Dieu n'était pas fatigué ici. Dieu nous montre l'exemple. Si je me suis reposé, il faut que tu te reposes. Tu dois te reposer. Peu importe les excuses, peu importe les bonnes excuses, si je me suis reposé, tu dois te reposer. Même je pense que le septième jour, Dieu a créé le repos. Dieu le créa le repos pour notre bien. Et si Dieu s'est reposé, il faut que tu te reposes aussi. Puis honnêtement, je sais à quel point c'est un défi. Puis c'est pas populaire le repos. Ça fait pas vendre ce matin ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il y a aucun best-seller qui est sorti dans l'histoire qui était intitulé « Le repos ». Non, ça parle toujours de productivité, ça parle toujours de travail, ça parle toujours de développement de potentiel, ça parle toujours de développer encore plus qui on est. Le repos, c'est pas populaire. Même dans nos églises, on a souvent entendu des pasteurs dire « Si le diable prend pas de vacances, moi non plus, j'en prendrai pas ». Mais depuis quand le diable est un exemple? Le diable s'est pas reposé, vous voyez comment il a terminé? C'est qui ton exemple? Le diable? Qui s'est jamais reposé? Qui prend pas de vacances? Ou Dieu qui a pris un jour de repos? Qui est-ce que tu veux imiter ce matin? Dieu a conçu un rythme créationnel, 6 jours de travail et 1 jour de repos. C'est lui qui l'a créé, ce rythme créationnel-là. Le repos n'est pas une perte de temps. Dormir, ce n'est pas une perte de temps. Toutes les études montrent qu'on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus créatif, beaucoup plus performant après un moment de repos. Et même on le sait dans la société, ça. C'est pour ça qu'on dit souvent « La nuit porte conseil. Repose-toi là-dessus. Prends ton temps, repose-toi là-dessus avant de me donner une réponse. Réfléchis. » Une étude même en 2022 est sortie et ils ont prouvé, l'étude a prouvé qu'un bon repos pouvait réduire le stress, améliorer ta fonction cognitive, autrement dit ta concentration, ton intelligence, ta mémoire. Favoriser ta régénération physique, autrement dit, tu récupères mieux physiquement, les fibres de tes muscles récupèrent mieux physiquement. Renforcer ton système immunitaire, t'attrapes moins de rhume, t'es moins malade. Améliorer ton bien-être, et le repos aussi améliore ta bonne humeur. Tente-toi vers ton voisin ce matin et puis dis « Ouh, je crois que t'as besoin de repos ce matin ». Faisant, ne le faites pas. Hein. Le mot sabbat veut dire s'arrêter. Mais le mot sabbat veut dire aussi prendre plaisir, se délecter, trouver sa joie dans ce que Dieu nous a donné, trouver sa joie dans notre famille, prendre plaisir dans nos amis, prendre plaisir dans ton chalet en région, prendre plaisir dans la nature, prendre plaisir dans ton bon canapé bien confortable ou dans ton lit king size. Prendre plaisir en Dieu. Ce qui est intéressant de voir, c'est le verset 3 de Genèse 2, où il est écrit que Dieu bénit le septième jour et il en fit un jour saint. Et saint signifie mis à part. Et ce qui est étonnant, c'est que durant toute la création, Dieu a béni 3 choses. Les animaux, les êtres humains et une journée. Pourquoi bénir une journée? Et je trouve ça intéressant qu'un théologien a expliqué que les animaux et les êtres humains ont la capacité de procréer, de se multiplier. C'est pourquoi Dieu les a bénis. Mais est-ce qu'il serait possible que Dieu ait béni le jour du sabbat afin de donner la capacité à cette journée de multiplier, de procréer, d'engendrer la vie à tout ce que tu as accompli la semaine? Dieu a béni le jour du sabbat pour qu'on puisse profiter des fruits de notre travail de la semaine. C'est une journée de plaisir. C'est pas une journée plate, le sabbat. C'est une journée de plaisir, une journée d'émerveillement, une journée où on profite des fruits de notre travail. Où Dieu veut qu'on profite de son repos et de la vie qu'il nous a offerte. J'aime même ce qu'un rabbin juif a dit. Il a dit que nous devrions commencer ce jour de sabbat en déclarant « Aujourd'hui, je vais choyer mon âme. Aujourd'hui, je vais choyer mon âme. » Puis honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, pendant toute mon étude sur ce message-là, sur le sabbat, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que j'étudie, je réfléchis sur le sabbat. Puis honnêtement, je sais pas si vous aimez ce message, mais moi, je l'ai pas aimé. Hein. Je trouve ça dur, le repos. Moi, c'est quelque chose qui me confronte en premier. C'est le message, avant de vous le prêcher, j'ai dû le prêcher à moi-même d'abord. Moi, ma journée de repos, généralement... C'est pas le samedi parce que le samedi je travaille pour l'église. C'est pas le dimanche parce que le dimanche je travaille à l'église. Mais c'est le lundi. Et le lundi, arrivé au lundi après le week-end, après la semaine, j'arrive pas à décrocher. Je check mes mails de travail. Je fais des retouches photos un peu pour l'église. Je pense à mes futurs rendez-vous, je pense à savoir qui appeler, je pense à mon prochain message même, je pense aux défis qu'on a, je pense à tellement de choses, ça tourne non-stop dans ma tête. Et en faisant cette étude, j'ai appris que je devais changer ça dans ma vie. Et pas oui. Hein. C'est dur parce que je ne veux pas. Mais depuis que j'étudie ce message, je fais... un effort, efforçons-nous, je fais un effort pour me reposer. Alors je coupe mes notifications professionnelles. Même quand il y a une idée qui me vient sur l'église, je la note rapidement, puis je jette le téléphone au loin parce que je veux me concentrer sur Dieu, sur ma femme et sur ma fille. Pour me délecter de son repos. Et si c'est dur comme ça, pour moi et peut-être pour toi aussi, si c'est dur comme ça, c'est parce que le repos nous oblige à dire une chose qu'on déteste dire. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le maître de ma vie. Je ne suis pas celui qui pourvoit à ma vie. Je ne suis pas le héros ou la héroïne de ma vie. Je ne suis pas indispensable. On n'aime pas dire ça, hein? On aime tout contrôler, là. Un jour, une personne que je connaissais, une de mes amies que je connaissais bien, elle vivait une crise énorme. Puis tout le long de la semaine, je l'ai accompagnée dans cette crise. J'ai essayé de l'aider au mieux que je pouvais en se textant, je lui envoyais des emails. J'ai essayé de l'accompagner au mieux, à naviguer au mieux dans sa saison de crise. Là, c'était intense. Puis arrivé à mon jour, où c'était censé être mon jour de sabbat, mon jour de repos, je me sentais poussé à éteindre mon téléphone. Arrêter mes notifications, à couper toutes mes notifications. Et puis je me dis, hey, come on, je peux pas faire ça. Imagine, mon amie, elle me contacte, elle a besoin de moi. Si elle m'écrit, je pourrais pas lui répondre. Qu'est-ce qu'elle va penser de mon amitié? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Faut que je l'aide. Mais je me sentais poussé, coupe tout, arrête tout aujourd'hui, repose-toi. Et je l'ai pas fait, non, je l'ai fait. À contre-cœur un petit peu, mais je l'ai fait. Et le mardi, alors que j'ouvrais tous mes mails, j'ai appris que toute la situation de mon ami s'était réglée durant ma journée de repos. Le repos a été bénéfique pour moi, parce que ça m'a fait du bien. Je me suis reposé, j'étais plus en forme. Ça m'a permis d'apprendre à dépendre encore plus de Dieu, à diminuer mon orgueil. Je ne suis pas censé être le héros, je ne suis pas censé être partout, je ne suis pas censé être indispensable. Ça m'a appris à relâcher aussi mes problèmes à Dieu. Mais mon repos a permis aussi à découvrir à mon ami que je suis pas la solution à ses problèmes. C'est pas moi sa solution. Mon repos a permis à découvrir à mon ami que Dieu était la solution à ses problèmes. Mon repos m'a fait du bien, mais a fait du bien aussi à mon ami. Maintenant, côté pratique. Comment vivre un bon sabbat? Comment vivre un bon repos? J'ai quelques conseils pour toi, je m'en suis limité à 5, et c'est juste des conseils là. Vous n'êtes pas obligé de les appliquer, c'est des conseils. Puis j'essaie de faire des moyens de mémotechnique pour que vous puissiez le retenir, mais c'est juste des conseils. Premièrement, R, réserve-toi un jour de repos. Ça fait du sens. Réserve-toi un jour de repos. Planifie-le peut-être à l'avance si tes horaires changent constamment, mais réserve-toi une journée où tu vas te reposer. Planifie-toi un jour de repos. Puis je trouve qu'on a de la chance aujourd'hui dans notre société, c'est parce qu'on a 2 jours de repos normalement. Généralement, la majorité des personnes ont le samedi et le dimanche. Choisis vraiment un vrai jour entre ces 2 jours-là, un vrai jour de repos. Parce que parfois, on prend un jour de repos, mais on fait tellement de choses qu'on a besoin d'une semaine de vacances pour récupérer notre journée de repos. En vous entendant rire, je pense que vous avez déjà vécu ça. Vous revenez de vacances, vous venez de repos, vous dites « Aïe, j'ai besoin de vacances pour récupérer ce que je viens de vivre là. » Prends un vrai jour de repos par semaine. E, éteins ton téléphone. Détache-toi des réseaux sociaux. Instagram ne va pas exploser parce que tu passes pas une journée sur Instagram. Lâche tes réseaux sociaux. Lâche ton téléphone. J'ai vu une étude dernièrement au Canada. On estime qu'une personne en moyenne, donc il y a plus, il y a moins, mais il y a plus, en moyenne passe 3h et 24 minutes sur son téléphone par jour. Ce qui donne en une semaine 23h et 48 minutes. Presque une journée par semaine, on la passe sur notre téléphone. Presque une journée par semaine. Alors si tu t'arrêtes pendant une journée de repos et que tu mets ton téléphone de côté, ça va pas te faire de mal. Ça peut te faire que du bien. P, présence de Dieu. Je sais pas si t'es une personne qui a une discipline de vie spirituelle à prier, à lire ta Bible tous les jours. Mais en ce jour-là en particulier, lis ta Bible, prie, mais d'une façon différente de ce que tu fais des autres jours. Que ce soit vraiment centré sur une adoration. Parce que le sabbat à l'époque, c'était une journée où on adorait Dieu. Fais de cette journée un moment spécial pour adorer Dieu. Peut-être fais que lire les psaumes. Écoute du worship. Adore Dieu avec tes mots. Prends un temps spécial pour t'arrêter dans la présence de Dieu et le contempler. Adore-le cette journée-là. Et on peut l'adorer, oui, en lisant la Bible, oui, en priant, oui, en le louant, mais on peut adorer Dieu aussi en prenant du temps avec nos familles. On adore Dieu en prenant du temps avec ceux qui nous a donné, ceux qui sont chers à nos cœurs. On adore Dieu en se baladant dans la nature, parce qu'il a créé la nature. On adore Dieu en faisant des choses qu'il a créées pour notre bien. Et on adore Dieu aussi en dormant. On peut adorer Dieu en dormant. À la première réunion, quand j'ai dit cette phrase-là, c'était incroyable. J'avais l'impression que toute la foule s'était réveillée à ce moment-là. On peut adorer Dieu en dormant. Alléluia! Prends ce temps avec Dieu. Réserve-toi un temps pour Dieu et pour ce qu'il a créé pour toi. Ou opte pour quelque chose qui te repose aussi. Opte pour quelque chose qui te plaît. Opte pour quelque chose qui est différent de ce que tu fais la semaine. Opte pour quelque chose qui te fait du bien. Et ça va dépendre de chaque situation. Pour certains, ça va être une bonne sieste. Pour d'autres, ça va être une balade dans la nature. Mais généralement, les spécialistes viennent à dire que pour les jours de repos, ce qui est important, c'est de faire quelque chose de différent de ce qu'on fait la semaine. Par exemple, si ton activité la semaine, c'était un travail qui fait plus travailler la tête que le corps, pendant cette journée de repos, fais quelque chose de physique. Moi, la dernière fois, pour ma journée de repos, j'ai monté pendant 3-4 heures un Lego. Ça m'a fait du bien, ça m'a reposé l'âme. Pour d'autres, ça va peut-être faire quelques travaux à la maison. J'ai dit quelques travaux à la maison, parce que si tu passes une journée à faire des travaux à la maison, c'est plus une journée de repos. Hein. Quelques travaux à la maison. Va dans la nature. Puis si tu as un travail qui est plus manuel, lis un livre, lis un magazine. Fais une activité qui te fait plus utiliser ta tête. Passe du temps avec ta femme. Passe du temps avec ton mari. Passe du temps avec tes amis. Passe du temps avec ceux que tu aimes. Fais des jeux de société. Fais quelque chose qui te plaît. Amuse-toi. Fais quelque chose qui ressource ton âme. Fais quelque chose qui ressource ton cœur. Moi, un exemple, Je peux pas me ressourcer si je fais le magasinage, là. H&M, Zara, c'est pas ça qui me ressource. Fais quelque chose qui te ressource, qui te plaît. Puis S, sans stress. Pas de pression. C'est pas un moment où tu dois performer. C'est pas un moment où tu dois faire des obligations, où tu dois faire ou ne pas faire des choses. Sans stress. J'aime ce que Colossiens dit au chapitre 2, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête ou d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Autrement dit, ne juge personne sur la façon de vivre leur sabbat, et que personne ne te juge sur ta façon de faire le sabbat. N'en fais pas une suite de règles obligatoires à suivre. Personne ne doit te dire quoi faire, mais je pense que c'est important de prendre un temps par semaine et de s'arrêter pour se reposer et être renouvelé en Jésus. À mes yeux, la façon dont je peux comprendre le sabbat, la forme du sabbat peut changer, le jour du sabbat peut changer, les circonstances, parce que selon les circonstances, selon la situation, tout ça peut changer, mais la base du sabbat doit rester la même, se reposer en Jésus, sans stress. Le jour du sabbat, prends ton temps. Parce que le sabbat, c'est pas une course. Le sabbat, c'est lent. Puis ne culpabilise pas si tu t'ennuies. Ne culpabilise pas si tu ne fais rien cette journée-là. Tu as été créé pour être productif 6 jours sur 7. Et pas 7 jours sur 7. C'est correct de rien faire. Le sabbat, ça sert à ralentir, s'arrêter, se reposer, arrêter de courir partout. Savoir des trous dans la journée, c'est prendre son temps. Parce qu'alors que tu vas ralentir, alors que tu vas prendre du temps, ça va t'ouvrir une nouvelle perspective. C'est que tu vas faire toutes ces choses-là avec Dieu. Tu vas porter son joug. La semaine, tu ne réalises peut-être pas parce que tout passe tellement vite, tu n'as pas le temps de t'arrêter, tu n'as pas le temps de penser que Dieu est avec toi, mais le jour du sabbat, parce que tu vas prendre plus de temps, parce que tu vas aller à un rythme beaucoup plus lent, tu vas réaliser, hey, je fais ça avec Dieu aujourd'hui. Il est avec moi alors que je me balade dans la nature. Il est avec moi alors que je suis en train de chiller avec ma femme. Il est avec moi alors que je suis en train de jouer avec mes enfants. Il est avec moi. C'est cool. Et tu vas commencer à réaliser que tu portes à ce moment-là le joug léger de Jésus. Son repos, sa grâce et sa paix pour toi. Alors ralentis. Ose prendre une journée de break par semaine. Et laisse Jésus transformer ton cœur, transformer ta vie, afin de te donner une paix, mais aussi un repos qui est parfait. On se lève ensemble ? Dans quelques instants, on va terminer ce temps-là par de la louange et de l'adoration, parce que pour plusieurs aujourd'hui c'est votre jour de sabbat, donc on veut louer Dieu, on veut adorer Dieu, parce que le jour du sabbat on adore Dieu, on lui rend la gloire. Mais avant de rentrer dans la louange, quand on regarde à la vie de Jésus, dans toute la vie de Jésus, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être, dans qui il était, c'est tellement incroyable de voir un nombre incalculable de miracles qui prenaient place les jours du sabbat. On voyait des miracles le jour du sabbat, et on voyait aussi beaucoup de miracles arriver après que Jésus se soit reposé. Et ça m'amène à me poser comme question, à côté de quel miracle est-ce qu'on peut passer si on ne se repose pas ?